IDFM Radio, par nous, pour nous. Bonjour et bienvenue à l'économie en direct sur IDFM Radio, la plus belle des radios valdoisiennes en Ile-de-France, en FM sur 98.00, web radio sur 98.fr, en DAB+, sur toute l'Ile-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Entre leadership féminin et enjeux sociétaux majeurs, dialogue croisé entre une sénatrice engagée et une chef d'entreprise visionnaire. Ce matin, mardi 4 février 2025, dans l'économie en direct, et jusqu'à 11h, j'ai le plaisir d'accueillir Jacqueline Eustache-Brignaud, sénatrice du Val-d'Oise. Bonjour madame la sénatrice.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Je vous en prie, très heureuse de vous recevoir enfin dans cette émission. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis, si vous me le permettez, je vous appellerai Jacqueline.
Avec grand plaisir.
Merci. Donc, réélue aux dernières élections sénatoriales de septembre 2023, membre du groupe Les Républicains, vous occupez plusieurs fonctions au sein du Sénat, auxquelles s'ajoutent des missions ponctuelles, stratégiques et structurantes, dont vous allez nous parler aujourd'hui. Des missions qui touchent aux enjeux fondamentaux tels que la cohésion sociale, la sécurité publique et la souveraineté nationale. Des missions engagées et courageuses qui impliquent de traiter des sujets sensibles, parfois polémiques, tout en assumant la responsabilité de proposer des solutions adaptées à ces enjeux complexes. Et c'est ce que nous allons découvrir avec vous dans quelques minutes.
Merci.
À vos côtés, Carla Sarantelis, fondatrice et présidente de Hibou. Bonjour Carla.
Bonjour Jacqueline.
Ravie de vous accueillir sur ce plateau. Carla a un parcours impressionnant entre haute couture et ingénierie des mines. Nous allons découvrir avec vous Hibou. Hibou, c'est H-Y-B-2-O, pour nos auditeurs.
Exactement.
Une marque innovante dans le domaine de la mobilité des matériaux biosourcés et dont nous avons hâte d'en savoir plus. Encore bienvenue à toutes les deux au micro d'IDFM Radio.
IDFM Radio, 98 FM.
Jacqueline Eustache-Brignaud, donc sénatrice du Val-d'Oise. Une de mes premières questions à mes invités, généralement, c'est souvent de leur demander de se présenter. Donc voilà.
Oui, écoutez, je vais résumer en quelques secondes mon parcours. Donc, je suis effectivement sénatrice du Val-d'Oise depuis 2017. Mais comme vous le savez, j'ai eu surtout un engagement local puisque j'ai été aux côtés de François Seignier, maire de Saint-Gratien, pendant 3 mandats maire adjoint à ses côtés, chargé du secteur social. Et je suis devenue maire de Saint-Gratien. Je lui ai succédé en 2001 jusqu'en 2017. Et puis, parallèlement à cet engagement local, j'avais été pendant quelques années conseillère régionale d'Île-de-France. Voilà. Après ma formation, parce que être élue, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Je suis enseignante, j'étais prof dans un lycée professionnel de droit et d'économie pendant 25 ans. Et j'ai arrêté un moment parce que je pense qu'on peut pas bien tout faire. Quand on est enseignant, il faut donner toute son énergie, ouais, son énergie pour ses élèves. Et c'était compliqué pour moi d'assumer à la fois un engagement politique et à la fois ce métier fabuleux qui est le métier d'enseignant, parce que c'est un métier fabuleux. Donc voilà mon parcours résumé. Et je suis engagée, effectivement, depuis très, très, très longtemps.
Oui, vous me
en
disiez
politique.
Tout à l'heure, depuis le lycée.
Ben moi, je me suis engagée quand j'étais en terminale au lycée Gustave Monod, puisque j'ai passé mon bac au lycée Gustave Monod. J'étais un peu à contre-courant de tous mes copains, parce que je me suis engagée sur une voie de droite. Ils étaient tous de gauche. C'était assez étonnant, d'ailleurs.
Oui, oui.
Alors, moi, je suis pas issue d'un milieu politique. J'étais la première de la famille à faire de la politique. J'ai entraîné, moi, mes parents dans la politique.
D'accord.
Voilà, j'avais une espèce de passion. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce que moi, je fais partie d'une génération où l'image du monde politique, c'était plutôt une image de gens assez âgés. Et moi, j'ai eu un espèce de flash sur Valéry Giscard d'Estaing, parce qu'évidemment, ma génération, on a vu pour la première fois quelqu'un de jeune, en fait.
Voilà. Et puis, il a changé
beaucoup de choses. Mmh. Alors, ça fait rire tout le monde quand je dis ça, mais c'est une vraie réalité.
Mmh. Et alors, devenir sénatrice, c'est une évidence pour vous?
Alors, une évidence. Moi, je pense que la vie, elle est faite de circonstances, d'étoiles au-dessus de nos têtes. Oui, d'être parlementaire, je trouve que c'était. Alors moi, ça a été un vrai choix compliqué pour moi parce que avec cette loi sur le non-cumul parlementaire-maire, ça a été très compliqué de choisir parce qu'il a fallu que j'abandonne mon mandat de maire. Mais je suis restée conseillère municipale parce que je veux avoir un pied dans le local. Alors une évidence peut-être, mais c'est surtout on m'a demandé d'y aller. On m'a dit écoute, ça serait bien que tu puisses aussi apporter tout ce que tu as fait localement au niveau national. Donc j'ai dit oui, c'est un beau challenge. Et je regrette pas parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis tellement nourrie de ce que j'ai vécu dans ma ville, avec les habitants, avec que je suis assez fière de ce que je fais parce que je suis nourrie de. Et d'ailleurs, je veux le dire ça. Je pense qu'on est un bon parlementaire quand on a une expérience locale, très sincèrement.
C'est sincèrement.
Et on le voit.
C'est fondamental.
L'image de l'Assemblée nationale est une conséquence de cette absence pour beaucoup de connaissance du tissu, une connaissance de comment fonctionne la réalité dans nos villes, dans nos banlieues, dans nos campagnes, dans nos outre-mer. Quand on n'a pas eu de mandat local, alors on peut être brillant, intelligent, ça c'est pas ça que je remets en cause. C'est que quand on n'a pas eu les pieds dans la bouche, j'ai envie de dire, on parle pas de la France de la même manière. J'en suis convaincue.
D'ailleurs. Beaucoup regrettent le non-cumul des mandats aujourd'hui.
Ah oui. Alors d'abord, je voulais apporter une précision là-dessus, parce qu'on dit non-cumul. Il y avait une première loi qui avait été faite par M. Jospin et qui a eu raison de faire, c'est qu'on pouvait pas avoir plus de deux mandats. Mais ça, c'est très bien, parce qu'avoir cinq mandats, c'est juste pas. Donc cette première loi, elle était intéressante, parce que bon voilà, on disait vous pouvez pas avoir plus de deux mandats. C'est sous François Hollande qu'on a interdit au maire d'avoir un mandat de parlementaire. C'est ça la loi dont on parle aujourd'hui. On en parle en termes de cumul, c'est surtout de dire on ne peut pas être parlementaire et être dans un exécutif. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut pas être maire, on peut même pas être maire adjoint, on peut pas être président de département ou vice-président de département, on peut pas être dans un exécutif local. Voilà. Et ça, franchement, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Vraiment.
Ah, moi, je reçois beaucoup de maires qui le regrettent.
Ah ben, bien sûr. Absolument. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on en reparle parce qu'on s'aperçoit que la conséquence, elle est dramatique, particulièrement à l'Assemblée. D'ailleurs, pourquoi il y a une telle différence entre Sénat et Assemblée, c'est que quasiment tous les sénateurs ont eu cette expérience locale. Quasiment.
C'est ça.
Quasiment. Ils ont été conseiller départemental, maire adjoint. Ils ont tous eu. Et ça change tout. Moi, j'en suis convaincue.
Alors, Jacqueline, je l'ai dit en préambule, vous avez à cœur aujourd'hui de travailler sur des enjeux fondamentaux, prioritaires pour l'État régalien. On commence par le groupe de travail sur l'islamisme, obstacle à la cohésion sociale que vous allez animer. Quels en sont les objectifs principaux?
Bon, vous savez que moi j'ai un engagement sur ce sujet qui est pas d'hier,
non,
puisque j'ai eu à gérer cette difficulté de France qui se coupe sur des sujets communautaires à Saint-Gratien il y a plus de 10 ans maintenant, et que moi je suis convaincue qu'aujourd'hui nous n'avons pas assez lutté contre cette emprise de la religion dans notre quotidien, et je suis très inquiète sur le fait que l'islamisme, et pourquoi je dis islamisme, c'est un projet politique, l'islamisme, hein, c'est pas l'islam, voilà, c'est un projet politique qui consiste à imposer à nos démocraties et à l'Occident d'une manière générale, et pas uniquement en France, la loi religieuse avant la loi. Et en France, on voit bien que depuis une vingtaine d'années, cette petite toile d'araignée se tisse partout dans notre société. Et moi, je ne conçois pas, en particulier pour la jeunesse, qu'elle se divise et qu'elle se déteste au nom d'une religion quelle qu'elle soit. Mais clairement, clairement. Voilà, nous sommes des citoyens de la République, quelle que soit notre couleur de peau, notre religion, nous avons un code commun, c'est la République, rien d'autre. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pourquoi on a souhaité, le groupe LR a souhaité travailler sur ce sujet et m'a demandé de le faire, c'est qu'on s'aperçoit que ces revendications commencent à poser un vrai souci de cohésion nationale et que c'est un obstacle à notre cohésion nationale. C'est quand des enfants s'insultent au nom d'une religion et en remettant en cause des valeurs de la République, c'est inquiétant. Donc effectivement, le groupe LR a souhaité monter un groupe de travail sur ce sujet que je vais animer. Donc il y a une trentaine de sénateurs qui ont rejoint ce groupe, ce qui est pas anodin vraiment, oui, parce que ça veut dire que tout le monde s'inquiète. Parce que, en fait, pourquoi tout le monde s'inquiète, c'est que nous, en Île-de-France, on est confrontés à ça depuis longtemps, et on s'aperçoit que ce sujet maintenant concerne toutes les villes, toutes les banlieues, toutes les petites villes, toutes les pour différentes raisons qu'on expliquera peut-être tout à l'heure. Et donc, en fait, on va mener un travail pendant 6 mois. On a commencé depuis 2 semaines là, et on va proposer un rapport permettra d'écrire et de proposer un certain nombre de recommandations. Pourquoi pas des propositions de loi, mais en tout cas, l'idée, c'est de démontrer que fondamentalement, les fréristes, en particulier les frères musulmans, oui, tissent une toile contre laquelle il faut qu'on lutte. Mmh. L'enjeu, c'est que les élus en prennent conscience. Moi, je peux comprendre que quand on est élu d'Île-de-France, on est conscient de ça depuis beaucoup plus longtemps qu'un élu qui est en province et qui n'est pas confronté à ça. Mais la France entière est confrontée à ça aujourd'hui. Donc voilà, l'idée, c'est de dire... ici, c'est la loi avant la foi, et nous devons écrire des choses pour que ça n'aille pas plus loin qu'aujourd'hui. Oui, il y a des revendications permanentes. Vous savez, ça a commencé par les exigences à la cantine, puis après les exigences dans le sport, après les piscines. Enfin ça, et on voit bien que voilà, les écoles hors contrat, les écoles sous contrat, et on voit bien des pays qui ont été extrêmement tolérants sur ce sujet aujourd'hui, s'inquiète quand même sur... Moi, j'ai beaucoup de mal à accepter des espèces d'écosystèmes religieux, c'est-à-dire des quartiers ou des villes qui ne vivent que sur ces fondamentaux-là. C'est-à-dire, on vit dans l'entre-soi communautaire, et ça, c'est pas la République française, en tout cas.
Complètement.
Ce n'est pas la République française.
C'est ce que j'allais dire, il faut
vraiment
respecter la République.
Voilà, moi, vous savez, j'ai grandi en HLM, moi, j'ai eu des copains de toute origine, de toute couleur de peau, et nous étions tous des enfants de la République. Et moi, mon grand souhait, c'est que les enfants de ce pays soient tous des enfants de la République, et rien d'autre.
Alors, on sait que, enfin, en tout cas, moi, je sais que vous êtes très proche du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dont vous dites qu'il est votre boussole politique.
En permanence, oui.
Est-ce que ce sujet, aujourd'hui, est peut-être mis encore plus en évidence parce que vous avez les mêmes convictions?
Alors, moi, je crois que Bruno Retailleau, il est très clair sur ce sujet. Vous savez, quand je suis devenue sénatrice en 2017, Bruno Retailleau, en 2019, m'a confié une commission d'enquête sur ce sujet.
Oui, oui.
Et voilà. J'ai déjà eu, alors là, c'est une commission d'enquête officielle au Sénat. Il me l'a confié en 2019. Donc, il était conscient. Oui. Il était conscient de ces choses-là.
C'est pas nouveau.
Voilà, c'est pas nouveau. Et je pense que, sa ligne aujourd'hui conforte ce qu'il disait, ce qu'il dit et ce qu'il faut dire. Voilà. L'idée, c'est de pas, c'est de lutter qu'il y ait un combat des Français les uns contre les autres au nom d'une religion quelle qu'elle soit. Voilà.
Et alors, quelles propositions concrètes vous comptez faire pour lutter contre...
Alors aujourd'hui, si vous voulez, on est au tout début de nos travaux.
Oui.
On est au tout début de nos travaux. On fait des auditions, donc ça, je vous le dirai quand on aura quand on aura un peu avancé. Mon objectif aussi, c'est que mes collègues, les sénateurs, s'approprient fondamentalement ce qui se passe, voilà, dans notre pays, parce que c'est vrai que quand on y a été confronté, quand on y a travaillé, on sait ce qui se passe. Mais je pense qu'il faut qu'on partage, et vraiment, je le redis, mon souhait, c'est de le faire partager aux élus locaux. On devrait tous avoir la même ligne sur ce sujet. C'est pas un sujet de droite-gauche, c'est un sujet d'unité nationale. Vraiment.
Et alors, comment vous comptez les associer, ces élus locaux, les associations, les acteurs de terrain
dans ce travail ? Nous allons auditionner les associations des maires, des grandes villes, des petites villes. Oui, on va auditionner toutes celles et ceux qui sont proches des habitants pour leur faire passer des messages sur, parce que parfois des élus n'ont pas connaissance de ces sujets ou ne les mesurent pas parce qu'ils n'ont pas été confrontés ou qu'ils ne les imaginent même pas. Mais vous savez, la petite toile d'araignée islamiste, elle se tisse intelligemment, sans bruit, mais elle se tisse.
Oui,
vraiment.
Je crois que j'avais entendu dire une fois qu'ils pratiquent le piétisme.
Oui, en fait. Et puis c'est surtout que ils ont quelque chose qui est leur force, c'est le temps. Le temps. Ils ont du temps. Donc, la France ne réglera pas tout, parce que c'est un problème mondial, clairement, mais la France doit se protéger.
Je suppose que vous vous attendez à à des critiques qui pourraient accuser ce groupe de stigmatisation ou d'amalgame.
Mais moi, j'ai l'habitude de ça. J'ai l'habitude de ça parce que j'ai souvent mené des combats qui n'étaient pas faciles. Mais moi, j'ai une ligne politique. J'ai des convictions. Je suis une aficionados de cette République qui m'a tout donné. Moi, je suis une petite fille de la République. Hein, voilà, la République m'a beaucoup donné. Et mes convictions sont fortes sur ces sujets-là et rien ne me fera bouger, mais jamais, parce que il faut jamais céder aux pressions. Il faut être soi-même. D'ailleurs, je vais vous dire, quand on est forte et quand on est soi-même, on est respecté.
C'est vrai, c'est vrai.
Bien sûr.
Donc, c'est un groupe de travail qui va travailler combien de temps ?
Alors, on a commencé là et on souhaite proposer notre rapport au mois de juin.
D'accord. Bon, bah écoutez, je vous invite à revenir.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Merci, Madame la Sénatrice. Je propose de faire une pause avant d'aborder la deuxième mission dont vous avez souhaité nous parler.
Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go. Don't want you to wonder, darling, I need you to know. We were talking to the sunset, throwing dreams against the wall. I know none of them are stuck yet, but I bet it on you, honey. Oh, I would risk it all. These days, these nights are changing. My heart, my mind is set on you. I'm not afraid to say it's true. Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's the night or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways that this could go. Don't want you to wonder, darling, I need you to know. In this and every life, I choose us every time. Oh, 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 oh. So far, but I'm in love with everything about you, from your big green eyes to your out-of-tune guitar. These days, these nights are changing. My heart, my mind is set on you. I'm not afraid to say it, to say I do. Oh, I hope you know I will carry you home.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
C'est l'économie en direct et ce matin, j'ai le bonheur d'accueillir Jacqueline Eustache-Brignaud, sénatrice du Val-d'Oise, et Carla Sarantelis, fondatrice de la marque Hibou. Alors, Jacqueline Eustache-Brignaud, la mission dont vous souhaitiez nous parler également, c'est une mission d'information sur les polices municipales. Je crois que vous avez là un rôle de rapporteur pour cette mission.
Oui. Alors, vous savez que je suis membre de la commission des lois, moi, donc j'ai cette chance d'être dans cette belle commission qui est une des commissions les plus importantes au Sénat. Donc, en fait, la commission des lois m'a demandé, effectivement, de présider une mission sur la place des polices municipales aujourd'hui, comment on peut moderniser, quels sont les outils que nous pouvons leur donner aujourd'hui et demain. Bon, vous savez, la police municipale, il y a 20 ans, elle n'avait pas la place d'aujourd'hui. Hein. On s'aperçoit que la police municipale, internellement, extrêmement important en termes de sécurité, de présence sur les territoires. Voilà. Donc l'idée pour le Sénat, alors c'est un groupe de travail que je préside avec un sénateur de chaque groupe du Sénat. Hein, donc tout le monde est représenté. On va travailler pareil à partir maintenant et jusque probablement au mois de juin. On remettra un rapport. L'idée, c'est d'aller à la rencontre des élus, des syndicats de police, de toutes celles et tous ceux qui ont affaire aujourd'hui à la police municipale, parce qu'on s'aperçoit que probablement aujourd'hui, ils ont un rôle tellement important qu'ils n'ont peut-être pas les outils nécessaires pour assumer ces fonctions. Voilà, en termes de contrôle des identités, en termes voilà. Donc je pense que bien évidemment, et ça je vais être très claire là-dessus, la mission égalienne de l'État, c'est la sécurité, c'est à l'État de l'assumer. Mais on s'aperçoit qu'il n'y a pratiquement plus aucune ville qui n'a pas sa police municipale, qui est une vraie police de quotidien, que les gens finalement appellent maintenant aujourd'hui plus facilement parce qu'ils sont là. Parce que la police municipale nationale a aussi des missions telles que c'est pas si simple que ça. Donc ça doit être complémentaire sur le terrain. Ça ne doit pas remplacer la police nationale. Il faut être clair là-dessus. Mais donc il faut probablement leur donner des outils un peu plus importants que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et c'est l'objectif de cette mission, c'est de savoir quand, comment et pourquoi faut-il leur donner peut-être des moyens et des outils différents.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il peut y avoir une fracture entre les attentes des citoyens et justement les capacités actuelles des polices municipales ?
Bah, le problème, c'est que effectivement, les citoyens attendent beaucoup des polices municipales parce qu'ils les voient. Ils les voient beaucoup plus parce que bah, ils sont là, par définition, ils sont sur leur territoire, sur leur ville. Un policier national, il n'est pas attaché à une ville, il est attaché à une circonscription de police ou de gendarmerie, hein, puisqu'il y a les deux. D'ailleurs, dans le département, il y a les deux. Alors que la police municipale, elle est voilà sur le terrain là. Donc, il y a un rôle aussi important des élus aussi vis-à-vis de leur population. C'est vraiment, et moi je faisais quand j'étais maire, expliquer le rôle et la place de la police municipale et le rôle de l'État via ses polices et ses gendarmes, ses policiers et ses gendarmes. Donc ça, je pense que c'est important. Mais effectivement, il arrive à un moment où les gens se disent la police municipale est là, elle fait quoi et comment elle peut m'aider et comment elle peut gérer ces problèmes de sécurité qui sont aujourd'hui quand même un peu compliqués et dramatiques. Donc voilà, je pense que c'est important de bien définir ce qu'est la police municipale, bien travailler avec les élus, avec les associations, avec les services de l'État, bien évidemment, parce que on n'est pas ennemis, au contraire, on a un objectif commun, c'est la sécurité des citoyens, parce que c'est quand même un droit. Hein. On a le droit de vivre dans un pays apaisé, dans un quartier apaisé. Enfin, c'est un droit d'être, de pas avoir peur de sortir de chez soi. Vraiment, ça c'est un droit. Et tout citoyen a ce droit, il faut le dire, c'est le droit de chaque citoyen de ce pays, c'est notre liberté. Mmh. On en parlera peut-être sur le sujet après. C'est ça. C'est très important de se battre pour ça. La sécurité, c'est la liberté, vraiment. Et donc voilà. Donc sur la police nationale municipale, on va mener ce travail, on va faire des déplacements, on va même comparer avec des pays européens proches, l'Allemagne, la Belgique, parce que ils ont aussi peut-être une manière de fonctionner différente. Donc on va essayer d'être très positif pour voir comment cette police municipale de 2025 peut se doter d'outils peut-être nouveaux, différents, mais évidemment sans faire opposition avec la police nationale ou la gendarmerie, bien évidemment, parce qu'ils assument, je voudrais juste le dire, la police nationale et la gendarmerie assument des rôles quand même aujourd'hui très difficiles, qui remettent souvent en cause leur présence, parfois ils mettent leur vie en danger, on voit bien, hein, et moi je veux rendre hommage à cette police et à cette gendarmerie qui quand même fait tout pour que nous puissions vivre en sécurité et au nom de notre liberté dont on a tant besoin.
Alors, justement, puisque vous évoquez la gendarmerie, la police nationale, quelle est votre vision de cette collaboration entre les polices municipales et puis les élus locaux, puis les forces de l'État?
Je crois qu'aujourd'hui, elle fonctionne mieux.
Oui.
Voilà, je pense qu'elle fonctionne mieux. Elle peut encore. Voilà, il faut que chacun accepte l'autre dans sa mission.
Oui.
Voilà, et que cette complémentarité qui existe déjà, elle existe.
Je crois savoir, pour en avoir côtoyé des policiers municipaux, qu'ils se sentent un peu frustrés toujours par rapport aux policiers nationaux.
Mais ils n'ont pas la même formation. Oui, il faut faire attention à ça. Il faut pas les mettre dos à dos ou les opposer parce qu'ils n'ont pas la même formation. Par exemple, le port d'armes, c'est pas n'importe quoi, le port d'armes.
Bien sûr, on confie
pas une arme à n'importe qui. Mmh. Et donc, c'est normal qu'il y ait des exigences par rapport à ça. Moi, voyez, je vais vous donner mon exemple personnel. Moi, quand j'étais maire, j'étais opposée à l'armement de la police municipale.
Oui.
Parce qu'il y a 15 ans, on imaginait que c'était pas nécessaire. Non, mais clairement. Donc, c'est vrai que moi, j'étais opposée.
Le cas aussi, hein.
Voilà. Donc, je me disais, bon, attendez, il faut pas non plus en faire des shérifs, des oraux.
Ouais.
Moi, j'étais vraiment opposée parce que je sentais pas la nécessité et elle n'y était pas la nécessité. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, c'est différent. Nous avons un rôle de protection de nos policiers municipaux. C'est évident. On leur demande aujourd'hui de travailler la nuit, ce qu'ils ne faisaient pas il y a 15 ans, ou très peu. Donc, il faut quand même leur donner aussi des outils qui leur permettent d'être en sécurité. Maintenant, ça nécessite une formation, une adaptation. On donne pas une arme à n'importe qui, mais dans la police nationale non plus d'ailleurs.
Bien sûr.
Il faut faire très attention à ce qu'on fait et avec quoi on le fait.
Rester vigilant.
Voilà,
oui.
Faut être vigilant. Il faut cette complémentarité. Moi, j'ai un profond attachement à la police municipale, parce que je suis très attachée à la police municipale de Saint-Gratien, parce que je les aime beaucoup, parce qu'ils font un travail extraordinaire tous, vraiment. Mais il faut faire attention à pas les mettre en danger aussi. Mmh. Voilà. Mmh. Donc c'est ça qu'il faut. La ligne, elle doit être trouvée. Voilà.
Alors, toujours parce que je reçois des élus et que je suis au courant un petit peu de ces problèmes, je sais que les policiers municipaux sont parfois chassés par d'autres. Quand je dis chassés, recherchés, attirés dans le terme ressources humaines, par d'autres communes, et qu'il y a une vraie surenchère au niveau des salaires.
Oui. Alors la surenchère au niveau des salaires, elle a quand même des limites parce que d'abord on a des budgets, voilà. Mais je crois qu'il y a aussi il n'y a pas que la surenchère financière, il y a aussi des policiers municipaux qui veulent trouver du sens à ce qu'ils font.
D'accord.
Donc il y a aussi ça, il y a probablement des élus qui donnent des missions, parce qu'évidemment ils sont sous la responsabilité des maires ou des communautés d'agglo. Tout dépend de la mission qui est définie par ça aussi. Le rôle attractif de la police municipale, enfin l'aspect attractif, c'est de dire voilà, je fais quoi avec vous, monsieur le maire ou madame le maire. Je pense que c'est ça. Ils veulent aussi avoir cette reconnaissance et cet objectif de terrain aujourd'hui. C'est ça aussi qui les attire, je crois.
Mais parce que pour en revenir à cette histoire de surenchère, il y a des communes qui sont moins riches. Et
oui,
comment peuvent-elles bénéficier justement de police municipale efficace?
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais après, aujourd'hui, vous savez, par exemple ici, c'est la communauté d'agglomération qui rémunère. Et, je pense qu'on peut trouver des outils quand même aujourd'hui financiers pour être attractif. Moi, je ne pense pas qu'il y ait que l'aspect financier. Évidemment, ça compte, et j'entends bien, ça c'est normal, hein. Chacun défend entre guillemets son beefsteak et je le comprends très bien, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le sens du travail et la mission qu'on leur confie, moi je crois.
Et alors, globalement, quel résultat concret vous espérez obtenir à travers cette mission?
L'idée, c'est d'écrire avec tous ceux qui sont concernés, peut-être une modernisation, peut-être des outils, voilà. On va travailler sur comment, on fait un peu le point sur ce qu'est la police municipale d'aujourd'hui et ce qu'elle peut être demain.
Carla, peut-être voulez-vous intervenir pour ce problème de police municipale?
Alors c'est drôle qu'on évoque ce sujet-là parce que moi j'ai personnellement mon fils qui a intégré la gendarmerie en tant que réserviste, qui a 29 ans et qui est très engagé et justement il recherche à défendre des valeurs et notamment dans ces valeurs les valeurs de la nationalité française et je sens chez les jeunes justement cette envie et là encore il a fait ce week-end une séance de tir justement vous parliez de d'armement et tout et effectivement c'est pas à la portée de tout le monde on peut pas mettre un revolver entre les mains de tout le monde et ils ont par rapport à ça vraiment beaucoup de responsabilités, ils se sentent très responsables et je le vois un week-end sur deux, il participe à des missions dans le 95, bizarrement, qu'il est lui basé à Paris. Par rapport à ça, à la défense du territoire et de ses habitants.
Très bien.
Voilà.
Merci Carla.
Bien.
Jacqueline Sage-Brineau, donc à quand le rapport de
avant l'été, en tout cas, oui. Je pense que mai-juin, on aura fini.
Très bien.
Mais ça prend du temps.
Oui, ça prend du temps, bien sûr, oui, parce qu'il faut réunir tous les acteurs, oui, bien sûr. Oui. Merci. Je propose qu'on marque une nouvelle pause et puis on attaque une autre mission assez importante sur le narcotrafic. Oui. À tout de suite.
J'allume la flamme dans son regard. Une nuit passée, j'attends le signal. Nos deux cœurs dans la nuit ne font qu'un dans le noir. Y'en a des millions, mais y'a que toi que je vois. J't'ai dans mon viseur, dans mes visions, t'es dans mes bras. J'passerai pas la nuit sans toi.
Elle attire dans le mille. Elle vise mon cœur, bouge comme à chaque fois. Elle retient mes sensibles. Si c'est la fin du jeu, je pense qu'avec toi c'est le dernier level. Je veux pas que le jour se lève, ce serait l'idéal. Comme un idéal, comme un idéal.
Y'en a des millions, mais y'a que toi que je vois. J't'ai dans mon viseur, dans mes visions, t'es dans mes bras. Je passerai pas la nuit sans toi.
Elle attire dans le mille. Elle vise mon cœur, bouge comme un chat.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Merci d'être resté avec nous. C'est toujours l'économie en direct où ce matin j'accueille Jacqueline Eustache-Brignaud, sénatrice du Val-d'Oise, et Carla Sarantelis, fondatrice de l'entreprise Hibou, H-Y-B-2-O. Jacqueline Eustache-Brignaud, alors une troisième mission. Moi, j'ai en préparant cette émission, j'ai vu une transversalité entre vos trois missions. L'islamisme, la police municipale et puis le narcotrafic.
C'est la France,
hein, c'est ça.
C'est notre pays.
Donc parce qu'en ce moment le Sénat, alors moi j'ai deux jours de retard, j'ai quelques jours de retard. J'allais vous dire que vous examiniez une proposition de loi, mais en fait elle a été.
Oui, elle a été. Alors cette proposition de loi sur le narcotrafic, elle a été votée mercredi soir.
Oui.
On pensait qu'elle allait être votée que jeudi, mais finalement on a fini vendredi soir.
Très bien. Et donc on sait que Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, explique l'ampleur du narcotrafic. Alors moi j'ai vu depuis 2 ans, mais je sais par une autre personne que je connais que ça remonte à plus que ça. J'ai l'impression peut-être que ça s'est accéléré ces 2 dernières années.
Alors ça s'est accéléré. Alors ça a été pointé. Je vais juste un peu faire l'historique de cette loi.
Oui.
En fait, en 2023, Bruno Retailleau, qui était président de notre groupe au Sénat, a souhaité mettre en place une commission d'enquête. Je dis toujours une commission d'enquête, c'est quelque chose d'officiel.
Alors,
au Sénat.
Expliquez-nous d'ailleurs.
Une commission d'enquête, en fait, bon, c'est un travail d'approche d'un sujet, mais elle a une valeur officielle. C'est-à-dire que, par exemple, à la fin du travail de cette commission d'enquête, qui réunit des sénateurs de tous bords, si elle n'est pas, par exemple, votée et adoptée, elle n'est pas publiée.
Oui.
Voilà. Donc c'est important de le dire parce que et tous les gens qui sont auditionnés prêtent serment. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'officiel. Donc je le précise parce que
non, mais
parfois entre les missions et les commissions d'enquête,
complètement.
Voilà. Donc voilà.
Vous avez raison. Nos auditrices et auditeurs ont besoin de.
C'est vrai. Parce que c'est une espèce de langage que nous on connaît, qu'on maîtrise. Bon, et c'est, donc ça, il avait demandé en 2023. Donc et en fait, tous les groupes. Parce que tous les groupes peuvent demander une commission d'enquête sur un sujet qui les intéresse. Mais en tout cas, c'est le groupe LR qui l'avait demandé et qui avait été accepté par le bureau du Sénat. Et donc, elle avait été mise en place, cette commission d'enquête. Donc, le rapporteur qui est celui qui rapporte ce texte était effectivement, parce qu'il a travaillé sur la PPL aujourd'hui, notre collègue Étienne Blanc. Et elle était présidée par un sénateur socialiste, Monsieur Durin. Et donc, du coup, il y a eu un travail. Alors, juste, ce qui est intéressant, c'est que ça a été un travail transpartisan, et que le rapporteur LR et le président socialiste ont vraiment travaillé main dans la main sur ce sujet, parce que sincèrement, c'est un sujet qui doit, comme tout à l'heure, dépasser
les clivages politiques. Bien sûr.
Et ce premier travail et cette commission d'enquête, elle a mis à plat la réalité qu'on n'ignorait pas, mais qui a été clairement posé. Voilà. Il y a des magistrats qui avaient dit à l'époque qu'on maîtrisait plus rien à Marseille. Et rappelez-vous, vous avez été convoqué par le garde des Sceaux en disant mais arrêtez de dire n'importe quoi. Non, c'était pas n'importe quoi. C'était la réalité. Ouais. C'est cette commission d'enquête là qui a commencé à bousculer les choses.
C'est ce que dit Frédéric Clauze,
bien sûr,
de Marseille.
Bien sûr. Marseille. Bon, voilà, c'était voilà. Et donc du coup. À la faveur de cette commission d'enquête, des conclusions de cette commission d'enquête, où il faisait des préconisations, parce que l'objectif d'une commission d'enquête, c'est de faire à la fois des préconisations réglementaires et législatives. Donc, il y a un texte, effectivement, qui a été soumis au Sénat cette semaine sur, effectivement, comment lutter contre le narcotrafic. Parce que on le voit tous les jours. Alors, nos concitoyens le voient à travers les faits divers permanents de jeunes qui se font tuer. Ce qui est absolument monstrueux.
Ça s'accélère.
Voilà. Oui. Mais en fait, c'est toute l'organisation du narcotrafic qu'il faut attaquer. Et donc, avec ce texte de loi, on espère se donner des outils pour permettre à tous les services concernés d'aller plus vite et plus loin, en fait. Donc, on s'attaque à tout, C'est-à-dire que l'idée, c'est de renforcer tous les outils que nous avons pour lutter contre ce narcotrafic, se donner les moyens humains, mais pas uniquement. On a créé un parquet spécifique sur ça, comme on avait créé en 2015 un parquet, le PNAT antiterroriste, suite aux attentats terroristes islamistes. On a créé un parquet spécifique sur ce sujet. Ça a eu, franchement,
des
conséquences très positives. Et c'est ce qu'on veut créer pour le narcotrafic en lui donnant la qualification de criminalité, parce que aujourd'hui le trafic de drogue est lié à la criminalité. Donc ce parquet, il aura effectivement des magistrats dédiés, des greffiers dédiés, des outils dédiés. Et je pense que c'est un des bons moyens. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a effectivement...
Ce que je voulais juste dire, excusez-moi, je vous coupe, c'est que vous n'hésitez pas à dire que la France, aujourd'hui, est dans un piège.
Bien sûr qu'elle est dans un piège. Elle est dans un piège, la France, parce que ce narcotrafic, on le voit au quotidien dans nos rues, dans nos quartiers. Et puis, on voit qu'au niveau... du plus haut de la du spectre, vous avez des gens qui vivent dans des pays un peu éloignés en faisant leurs commandes depuis les pays étrangers. Et puis le drame aussi, c'est que dans les prisons, le narcotrafic s'est installé, on voit bien que avec les drames qui ont eu lieu récemment, il y a encore des narcotrafiquants qui pilotent leur réseau depuis la prison, qu'il y a effectivement aujourd'hui malheureusement des gens qui subissent ça, et il y a une corruption, mais une corruption qui est liée aussi à la peur de
heureusement n'est pas la corruption qu'on trouve en Amérique du Sud, c'est là où il faut agir.
Donc il faut agir partout parce qu'aujourd'hui c'est dramatique, c'est dramatique. Donc il faut le blanchiment d'argent, il faut s'y attaquer, mais même au plus bas du plus bas niveau. Donc le blanchiment d'argent, on a voté un texte, un amendement par exemple mardi, qui dit qu'on ne peut plus louer de voiture en liquide. parce que voilà, on voit bien que les grosses berlines qui sont louées là, qui terrorisent tout le monde pendant les mariages, on l'a tous écrit quand même.
Oui, c'est vrai.
Bah, voilà, on loue, c'est du blanchiment d'argent, on le sait. Donc par exemple, on a voté ça, plus possible de louer une voiture en liquide. Voilà. Bon, parce que donc il y a tout ça, il y a du terrain jusqu'au plus haut niveau, il faut qu'on arrive à y travailler. Il faut que, alors évidemment, le trafic de drogue, de cocaïne, de cannabis, il concerne pas que la France, il concerne le monde, j'ai envie de dire, l'Europe en particulier. Mais il faut qu'on se donne des outils internes à nos frontières pour préserver. C'est vraiment aujourd'hui quelque chose de grave qui remet en cause, comme tout à l'heure, notre cohésion et notre unité sociale. Enfin, vraiment, vous savez. Et puis, quand on s'attaque au trafic de drogue, on s'attaque aussi à tous ces gens qui le subissent tous les jours dans les quartiers populaires. Moi, je suis issue d'un quartier populaire, donc je suis très à l'aise d'en parler. C'est-à-dire que quand vous vivez un quartier HLM, que vous avez en bas de chez vous des trafiquants, qui fait qu'à partir de 17 heures, vous sortez plus de chez vous, vous laissez plus vos enfants jouer dehors, enfin, c'est juste effrayant, que vous avez un môme qui toute la journée est assis sur une chaise, qui chouffe, comme on dit, qui siffle pour venir à la police, ce môme, il est aussi déscolarisé, il est marginalisé à 14-15 ans, et peut-être que dans 2 ans, il sera mort. Enfin, comment on peut accepter ça? Et ça, c'est aussi une atteinte à la liberté individuelle des gens. C'est une atteinte à la liberté. Et puis, ces gens qui vivent dans ces quartiers, ils n'ont pas le choix d'aller vivre ailleurs. Ils ne peuvent
ils n'ont pas les moyens.
Parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que d'abord, pas facile de trouver un logement en région parisienne. C'est pas facile de dire, bah, je m'en vais et je pars avec une famille. Non, ils n'ont pas le choix. Donc, ils n'ont qu'un choix, c'est de le subir. Mais ça, c'est juste insupportable. C'est comme tout à l'heure, ce droit à la liberté, ce droit à la sécurité, c'est un droit et nous devons y travailler. Donc, vraiment, je pense que cette loi, elle va durcir vraiment tous les outils que nous avons pour lutter, parce qu'il est grand temps de lutter. Voilà, donc on a trouvé plein de... Voilà, il y a des critères législatifs, je ne vais pas tous les développer ici, mais vraiment, c'est un texte nécessaire, vraiment.
Oui, alors je crois qu'on peut quand même... Vous avez parlé de ce parquet national dédié, mais je crois que vous envisagez de mettre en place une injonction aussi à justifier l'origine de son patrimoine.
Oui, alors ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on parle de ce qu'on appelle des biens mal acquis. C'est-à-dire que, voilà, il y en a qui vivent dans le luxe, la joie et la bonne humeur, avec des sur le dos de jeunes qui meurent dans nos quartiers.
C'est
quand
ça,
même. Il faut juste pas oublier.
Oui, parce que eux, ils sont à l'abri.
Ceux qui sont au soleil, je ne dirais pas de pays, mais loin. Voilà. Donc sur les biens mal acquis, on s'est donné effectivement des outils pour pouvoir les saisir. Voilà, vraiment, c'est on a vraiment renforcé tous ces outils-là pour remettre en cause. Tous ceux qui sont au plus haut niveau, parce que il faut travailler sur le terrain, mais enfin voilà, il y a une telle chaîne, une telle dimension, de tel réseau, une telle organisation, c'est plus de 6 milliards d'euros le trafic chez plus important que certains budgets de ministères, certains ministères, donc vous imaginez, voilà. Donc il faut juste voir ce la réalité. Et puis il faut aussi, et ça c'est peut-être mon côté prof, expliquer que on n'est pas obligé ces petits gamins qui font ça pour l'argent, parce que on voit bien que les gamins qui sont assis sur une chaise sur la journée, c'est pour aller s'acheter des godasses et des voilà, enfin voilà. Mais il faut peut-être aussi que les parents prennent conscience que, parce que les parents ont leur part à prendre aussi. On sait très bien que dans les quartiers, ce sont des jeunes de plus en plus jeunes qui traficotent là, voilà. Mais il faut expliquer aux parents que ils sont parents et que on peut expliquer à son enfant que de pas avoir au pied des chaussures à 150 euros, c'est pas grave, être heureux avec des chaussures à 50. Ça c'est un peu primaire ce que je dis, mais c'est la réalité. Donc il faut aussi redonner du sens à tout ça et puis que tout le monde s'y mette, parce que vous savez, évidemment, moi je suis quelqu'un qui porte le travail social, mais vous savez, un éducateur de banlieue, malheureusement, sur ces gamins-là, il n'y a plus de prise. Parce que ces gamins-là, ils ont pris une telle autonomie, une telle manière de prendre leur vie en main à 14-15 ans, qu'un éducateur, c'est complètement difficile pour lui de lui dire, écoute, arrête, retourne à l'école. Franchement, c'est un peu plus compliqué que ça.
Ouais. Et le consommateur?
Ah oui, alors moi, de toute façon, vous savez, le consommateur, il est aussi responsable de ça.
Bien sûr.
Alors,
bien sûr.
Je vais expliquer. Vous savez, moi, je fais partie d'une génération où moi, j'ai jamais fumé, quoi que ce soit. Bon, voilà. Mais j'ai pas de discours moral là-dessus. C'est pas ça. C'est que d'abord, aujourd'hui, ce que certains gamins fument dans les quartiers, c'est monstrueux. Mmh. Ils fument pas des pétards comme moi, des copains ont pu fumer dans les années 60-70, ce petit pétard récréatif, voilà.
Qui, oui,
voilà.
Il faut arrêter avec ça.
Ce que ces gamins fument, ce que certains gamins fument dans les quartiers, d'abord, ça les rend dépendants très vite, très très vite. Ils fument des trucs d'une nocivité mais que personne ne peut imaginer, ce qui fait que ça fait rapidement d'eux des cas psychiatriques, des gamins qui vont mal et qu'il faut qu'il y ait une prise en charge psychiatrique plutôt qu'avant, quoi. Puis
oui, donc excusez-moi, je vous coupe, mais
oui, je vous en prie.
C'est parce que du coup, au niveau de l'économie, vous parliez de 6 milliards, mais ça vient se rajouter.
Il y a tout. Voilà. Et c'est vrai que sur le consommateur, il faut avoir aussi un. Voilà, il faut pas avoir peur de dire. Sincèrement, se droguer, c'est pas bon. Enfin, il faut arrêter. Moi, j'ai pas de jugement moral. Hein. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais on a le droit de dire que c'est pas bon. Et puis, quand on est addict à la cocaïne, on peut pas dire que ce soit quand même pour la personne elle-même quelque chose de si simple que ça. Et moi, ce que je regrette, et je l'ai souvent dit, c'est qu'on n'a jamais eu. C'est un problème de santé publique aujourd'hui, la consommation de la drogue. Vous avez vu qu'on est un des pays européens qui consomment le plus. Bon, voilà. On peut se poser toutes les questions sociétales sur ce sujet. Mais enfin, c'est un vrai sujet. Et donc, aujourd'hui. C'est vrai que on a eu un plan pour dire ben boire c'est pas bon, fumer des cigarettes c'est pas bon. Tous ceux qui fument ils ont un truc fumé tu là bon sur leur paquet de cigarettes. Bon c'est parce que c'est une réalité sur le cancer du poumon etc. Mais sur ce sujet-là on n'a jamais eu un vrai plan de communication pour dire voilà ce que vous fumez. Voilà ce que vous prenez, voilà les conséquences. On n'a jamais eu. Et je pense que ça, moi certains me disent oui mais on peut pas faire une campagne de prévention sur des produits interdits. Je dis, vous êtes gentil mais tout le monde aujourd'hui ça n'a pas de sens de dire ça. C'est tellement répandu, tellement répandu.
Oui, puis c'est surtout qu'il y a une telle demande.
Regardez la conséquence au volant. Regardez la conséquence au volant. On en parle tous les jours. Oui. On en a encore parlé hier. Donc voilà. Donc il faut quand même avoir une réalité de dire la réalité. Quelles sont les conséquences au niveau de la santé? Voilà. C'est pas, voilà. Et vous savez, je vais juste dire quelque chose aussi sur, parce que vous allez peut-être me poser la question, sur la légalisation. Moi, je suis opposée à la légalisation. Mais totalement opposée. Pourquoi? C'est que vous aurez deux systèmes.
Bien sûr.
Aurez un système parallèle. Vous aurez ceux qui ont les moyens d'aller se prendre des petits pétards dans des trucs un peu chers, machin, et parce qu'ils ont les moyens. Et puis vous aurez toujours ce trafic, si on lutte pas contre le trafic, en particulier de cannabis, ces produits qui ont un taux de THC là, qui est terrible aujourd'hui, on les aura aussi. Il faut pas croire qu'on va régler le problème du narcotrafic en légalisant. Moi, je n'y crois pas.
Je n'y crois pas. Vous avez raison.
Voilà. Aujourd'hui, de toute façon, on va se donner des outils pour lutter fermement, en particulier sur le blanchiment, en particulier sur ces réseaux parallèles. Et puis, il faudra aussi probablement avoir des liens avec les produits producteurs, parce que
bien sûr, ça vient pas de nulle part.
Les produits producteurs, il va bien falloir leur dire à un moment que c'est juste pas possible. Alors, on sait d'où viennent les produits, hein. On sait d'où vient la cocaïne, on sait d'où vient le cannabis en France, hein. Donc, il faudra aussi avoir ce volet-là.
Auquel s'ajoute, je crois, maintenant des produits de synthèse et tout. Enfin, il y a toute une batterie.
Alors là, c'est terrifiant. Produits de synthèse. Mais c'est terrifiant. Parce que l'addiction aux produits de synthèse, regardez les consommateurs de crack à Paris. Enfin, c'est terrifiant. C'est une drogue pas chère. Mais c'est pareil, on sait d'où vient, le crack, voilà. Donc, il va falloir qu'on y travaille.
Donc là, la proposition de loi, elle a été adoptée.
Mercredi soir, elle part à l'Assemblée.
Elle part à l'Assemblée. Oui. Et donc, le retour, c'est quand?
Je ne sais pas. J'ai pas la date d'inscription à l'Assemblée, mais dans les semaines qui viennent,
d'accord,
tout sera. Oui, parce que je pense qu'il n'y aura pas de sujet.
Il n'y aura pas d'obstacle.
Non, je pense pas. Je pense que elle était transpartisane, ce texte aujourd'hui. Alors, il y a des petits détails sur lesquels, effectivement, des choses s'expriment, mais fondamentalement, non, je pense qu'elle partira comme ça.
Merci infiniment, Madame la sénatrice du Val-d'Oise, Jacqueline Eustache-Brignaud. Merci pour vos interventions, puis cette vision très pragmatique, mais qui vous définit quand on vous connaît un petit peu. Et
merci
encore
beaucoup.
Une fois, courageuse, s'attaquant à ces trois piliers clés.
Merci infiniment.
Voilà un peu de musique.
Quatre mots sur un piano, ce qu'elle a laissé. Quatre, c'est autant de trop. Je sais compter. Quatre vents sur un passé. mes rêves envolés. Mais qu'aurait donc cet autre que je n'ai? Ne le saurais-je jamais? Quatre et banals clichés, dénouement funeste. Trois moins deux qui s'en vont, ça fait moi qui reste. Caresse, égard et baiser, je n'ai pas su faire. La partager me soufflait Lucifer. Depuis je rêve d'enfer. Moi j'aurais tout fait pour elle, pour un simple mot que lui donne l'autre que je n'offrirai. Elle était mon vent, mes ailes, ma vie en plus beau. Était-elle trop belle ou suis-je trop sot? N'aime-t-on jamais assez? Quatre années belles à pleurer, maigre résumé, carte jouée, mais la reine s'est cachée. 4 millions de silences, de regrets qui dansent, les questions, les soupirs et les sentences. Je préférais ces absences. Moi j'aurais tant fait pour elle, pour boire à son eau, que lui donne l'autre que je n'offrirai. Elle était mon vin, mes ailes, ma vie en plus beau. Était-elle trop belle ou bien nous trop sots? N'aime-t-on jamais assez?
Vous étiez ma vie comme la nuit et le jour. Vous de nous effiliez mon parfait amour. Un matin vous m'avez condamné à choisir. Je ne vous aimais qu'à deux. Je vous laisse, adieu.
Cet autre que je n'ai, ne le saurais-je jamais? La partager me soufflait Lucifer. Depuis je rêve d'enfer.
IDFM Radio, par nous, pour nous. C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et je suis toujours en compagnie de Jacqueline Eustache-Brignaud, sénatrice du Val d'Oise, Carla Sarantelis, fondatrice et présidente de Hibou, HYB2O. Carla, même punition que madame la sénatrice, quelques mots sur votre parcours.
Alors mon parcours, moi je suis issue de la chambre syndicale de la haute couture et je suis en double diplôme, également ingénieure de l'école des mines.
Alors comment on passe comme ça de l'un à l'autre et puis est-ce que ça a influencé votre approche de l'innovation et du design?
Alors tout à fait. Alors moi déjà je suis deuxième génération de petite fille d'émigrés en provenance d'Italie. Mon grand-père ingénieur inventeur. J'ai grandi dans une fratrie de 5 garçons. tous ingénieurs et tous très intelligents et concepteurs de différentes choses dans différents domaines. Quand j'étais plus enfant, mon plaisir c'était de dessiner sur mes cahiers des vêtements pour les femmes.
D'accord.
Et mes souhaits c'était de réaliser des collections de vêtements dédiées aux femmes. J'adorais également les langues. Je parle de ça parce que c'est très important dans le parcours d'un jeune de pouvoir avoir pas mal de cordes à son arc.
Oui, oui.
Et du coup ces passions qui étaient et le design et les langues m'ont permis dans la vie de pouvoir aborder beaucoup de choses. Et cette curiosité intellectuelle et cette curiosité d'apprendre et de vouloir m'enrichir auprès de personnes parfois plus âgées que moi m'ont permis de découvrir pas mal de domaines. Donc j'ai commencé effectivement dans la mode. J'ai travaillé de nombreuses années pour Thierry Mugler qui aujourd'hui n'est plus là malheureusement, et j'ai appris beaucoup dans le domaine du design, de la couture, haute couture, couture de créateurs prêt-à-porter, et j'ai fait beaucoup de choses. Et
un
beaucoup,
métier de précision
voilà.
En plus et où il y a beaucoup de, on demande beaucoup de soins.
Exactement. Et où on est en contact avec l'humain.
Oui.
Et l'humain a toujours été quand même un fil très conducteur dans ma vie. Et je pense que madame la sénatrice, c'est la même chose, hein. Donc, je l'écoute avec beaucoup d'attention d'ailleurs. Et merci pour cela. Et puis, ensuite, après avoir grandi en Italie, parce que j'ai également grandi en Italie, je suis rentrée en France, j'ai travaillé dans différents domaines. Et j'ai eu l'opportunité de repartir vivre une vingtaine d'années en Asie. Et c'est là où ma vie a pris un sens particulier et où j'ai développé bénévolement pour une ONG des emplois pour des femmes dans les campagnes grâce à mon métier de styliste,
d'accord,
designer dans le textile.
D'accord. Vous avez pu leur transmettre votre savoir.
Exactement, parce que j'ai eu l'opportunité, je faisais des missions pour récolter des fonds pour les opérations à cœur ouvert pour les enfants,
oui, oui.
Et également les opérations Smiley à cause du bec de lièvre, parce que j'ai vécu 10 ans au Vietnam et il y avait eu la guerre du Vietnam avec le napalm qui a eu encore et qui a encore des conséquences sur les générations
aujourd'hui.
Et aujourd'hui. Et donc j'étais très investie dans ces missions de récolter des fonds et de faire en sorte que des enfants puissent être opérés par l'Institut Carpentier entre autres. Et du coup de fil en aiguille, j'ai été contactée par une ONG qui faisait des choses pour les hommes. Et bon, c'était faire pousser du tabac, élever des lapins, enfin faire des choses comme ça, hein. On était dans la campagne. Et quand on m'a approché, on m'a demandé si je pouvais faire quelque chose par rapport à mon métier. J'ai tout de suite dit oui. Et j'ai dit à la personne d'ailleurs que c'était son jour de chance, parce que j'étais très spécialisée dans la haute couture et dans les produits un petit peu à base de patchwork, mais pas le patchwork qu'on retrouve basique, plutôt des choses haut de gamme. Et j'ai créé toute une collection. J'ai formé les gens sur l'apprentissage de la couture. J'ai permis à ces personnes-là de prendre du microcrédit pour pouvoir développer leur propre petit business et rester chez elles et élever leurs enfants tout en travaillant de façon communautaire, qui n'est pas un gros mot dans ma bouche. Et suite à ça, j'ai vendu ces produits-là au Vietnam, mais également un petit peu partout en Asie, parce que de mon expatriation au Vietnam, je suis partie en tant qu'expatriée en Chine.
D'accord.
Donc j'ai continué à faire ça, et je continue encore depuis 20 ans, puisque c'est pérenne, et il y a 350 femmes qui travaillent dans cette dans cette ONG.
Bravo.
Et quand je suis rentrée en France de mon expatriation, eh bien, j'ai ouvert d'abord une agence de voyage. Et puis, l'ONG m'a rattrapée et m'a demandé de faire la même chose pour les hommes, de développer de l'emploi. Et le sujet, c'était un vélo en bambou. Et donc, j'ai commencé à faire un certain travail là-dessus. Comme j'étais diplômée de l'école des mines sur les matériaux, c'était pas compliqué pour moi. Sauf que les produits qui m'étaient proposés par l'ONG correspondaient pas du tout aux normes que l'on souhaite en Europe. Et je m'étais engagée parce que je suis une femme également d'engagement.
Oui, de devoir. Hein.
Voilà, auprès des ANRH, enfin tout ce qui est ESAT, par rapport au monde de l'handicap, parce que j'adore l'idée de pouvoir faire de la réinsertion au niveau de l'emploi et de pas laisser les gens au bord du trottoir, au bord de la route. Et du coup, je m'étais rapprochée d'un ESAT, d'une ARH qui est à Beauvais, avec laquelle j'ai travaillé et avec laquelle on a assemblé des vélos. Mais pour cela, je pouvais pas prendre les vélos de l'ONG, donc je suis repartie d'une feuille blanche. Cette feuille blanche m'a permis d'avoir 3 médailles au concours d'épine.
Oui, oui, absolument. Oui.
Et de continuer aujourd'hui à œuvrer dans le Val d'Oise, puisque je me suis installée il y a peu de temps, en octobre dernier, à La Turbine, dans les ateliers de La Turbine qui sont situés à Saint-Ouen-l'Aumône.
Oui. À Saint-Ouen-l'Aumône. Ah, c'est celle de Saint-Ouen, oui.
On a un atelier extraordinaire de 123 mètres carrés grâce à la turbine Wanaco, Wakano, qui est l'organisme et qui gère cela avec la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Et je tiens à les remercier d'ailleurs, j'en profite. Et du coup, aujourd'hui, on travaille avec une association qui s'appelle... attendez, je suis en train de chercher Vélo Solidaire qui dépend de comment s'appelle cette association?
Ça va vous revenir.
La Sauvegarde, voilà.
D'accord.
La Sauvegarde. Et pardonnez-moi. Et du coup, on fait également des missions de réinsertion. Et on souhaite développer ça aussi au travers des grosses sociétés qui sont, qui sont structurellement dans le Val d'Oise dans le 95. Pour plébisciter le vélo à tous les niveaux, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui on est dans un monde où il y a besoin d'un petit peu plus
la mobilité douce, oui,
exactement. Et puis de continuer ces actions de réinsertion, parce que pour moi c'est un vrai sujet de voir ce monde un petit peu avec des gens qui sont RSA ou des gens qui sont qui savent pas quoi faire, qui sont pas formés, et l'idée c'est vraiment d'avoir créé des produits tels que je l'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire un vélo qui a été primé et lauréat de différents prix, y compris des prix RSE avec le réseau Alliance, et de créer et d'innover d'autres produits avec des matériaux qui sont des matériaux éco-designés avec une empreinte carbone neutre.
Très bien. Alors donc vous l'avez précisé, récompensé à 3 reprises par le concours de l'épine, et puis vous parlez d'une médaille dont vous êtes particulièrement fière, la médaille de Noirmoutier, qui vous avait été remise par le préfet de l'Île-de-France et le préfet de Paris en personne.
Exactement. Alors ça a été c'était drôle parce que j'étais dans cette cérémonie de remise de prix, et puis on commence à citer Aïbou, hein, parce que bon.
Ah oui, vous dites Aïbou, pardon. Moi je disais Aïbou.
Oui, c'est pas grave. On commence à citer Aïbou, oui. Et puis une fois, et moi je me dis de toute façon on n'aura pas de récompense parce que on est là. C'est un peu comme disait Pierre Coubertin, l'important c'est de participer. Oui, oui. Et je me suis dit l'important c'est de participer et puis de jouer le jeu. Et puis j'entends une fois mon nom, j'entends une fois la marque. Que je me dis je suis déjà très honorée et très contente d'avoir reçu cette médaille d'or pour l'éco-transition. Et puis une deuxième fois, je suis encore appelée. Je me dis c'est presque du comique parce que je m'y attendais pas du tout. Et puis la troisième fois, effectivement, j'ai eu l'occasion d'être récompensée sur cette médaille de Noirmoutier qui me touche parce que c'était vraiment la récompense de tout un travail, parce que la société que j'ai montée, c'était en 2015.
Ah, j'allais vous poser la question.
Il y a eu beaucoup de R&D.
Ça fait 10 ans que vous travaillez sur ce produit.
Et il y a beaucoup de recherche et de développement. Il y a beaucoup de souffrance par rapport à ça, parce que vous tombez dans des milieux que vous connaissez pas forcément, parce que vous passez pas de la mode comme ça à faire des vêtements en flou, en grande couture, à faire des vélos de mobilité, qui nécessairement doivent être des outils et des sécurisés, des moyens de transport sécurisés et sur lesquels vous ne pouvez pas déroger, parce que là aussi on touche à l'humain et la sécurité de l'humain. Donc c'était pas évident pour moi et j'étais pas une enfant de la balle, je suis plutôt une enfant de la balle artistique hein, puisque ma mère a fait l'école de photographie très connue du studio Harcourt. Donc moi j'étais vraiment plutôt dans le milieu artistique, mais grâce à mes frères et grâce à mon grand-père très curieuse de tout ce qui est innovation et ingénierie. Et voilà comment je suis passée de la haute couture à la mobilité douce, voilà.
Très bien, merci beaucoup Carla. Carla, je propose qu'on fasse une courte pause et puis on va parler de vos besoins professionnels dans quelques minutes. À tout de suite.
Avec grand plaisir.
Well done, it's all about the soca, indeed. Make Rastaman seek, search, find and proceed.
Sweet soca music. Soca what we love and we need. A sweet soca is what the whole world need. It's selling out fast, some just can't believe. A soca leave
England start grieve again.
Soca what we love and we need. A sweet soca is what the whole world need. It's selling out fast, some just can't believe. A soca leave.
We need that start grieve. The girls and them want to get hype enough. We have got them flagging at the air whole night enough. Free up them body and do the things that they like enough. Bend forward, well she a wine whole night. Raise up she head and see where need a sunlight. You know me a drink me prima. She a drink pure Sprite. You know so well I mean she love. And a soca she like. You know do want no fussing and fighting. Sweet soca music tonight. You know
sweet soca what she love and what she need. Sweet soca what the young girl need. Sweet soca what she love and what she need. Sweet soca what the young girl need.
Come wave your flags up in the air. Come wave your rats up in the air. Come wave your flag. Come wave your rats. She need that mad. Come wave your flags up in the air, come wave your rats up in the air, come wave your flag, come wave your rat to be go bad again.
Soca what we love and we need. A sweet soca is what the whole world need. It's selling out fast and we just can't believe. A soca leave
England start grieve again.
Soca what we love and we need. A sweet soca is what the whole world need. It's selling out fast and we just can't believe. A soca leave
to be go start grieve. She come a Trinidad to kill me with the wine. Wine so unique, some white can't keep in time. She asked Ragamuffin, well humble and kind. Farm one line and come behind me. Said the way you move your body, girl, move your waistline. To the sweet soca music, girl, you look fine. Wave your flag up in the air one more time. Make me kill you with the wine, kill you with wine again.
Soca what we love and we need. A sweet soca is what the whole world need. We're selling out fast and we just can't believe. A soca leave
England start grieve again.
Soca what we love and we need. A sweet soca is what the whole world need. It's selling out fast and we just can't believe. A soca leave. Sweet soca what she love and what she need. Sweet soca what the young girl need. Sweet soca what she love and what she need. Sweet soca what the young girl need. Soca what we love and we need. A sweet soca is what the whole world need. It's selling out fast and we just can't believe.
England start grieve again.
Soca what we love and we need. A sweet soca is what the whole world need. It's selling out fast and we just can't believe. A soca leave.
England start grieve again.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Nous sommes toujours dans l'économie en direct et ce matin, j'ai le bonheur d'accueillir Jacqueline Eustache-Brignaud, sénatrice du Val d'Oise, et Carla Sarantelis, fondatrice de Aibou. Alors, pour le coup, je le dis bien. Madame la sénatrice, est-ce que vous faites du vélo?
Alors, je sais faire du vélo,
oui.
Mais j'en fais pas beaucoup. Je reconnais. En fait, le vélo, c'est extraordinaire. Je sais. C'est voilà parce que ça fait travailler tous les muscles.
Oui,
parce,
oui.
Mais j'en fais pas beaucoup. Alors, moi, faire du vélo sur des zones très denses,
c'est ça,
m'angoisse
oui,
un peu.
Oui, 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 oui.
Alors, je sais
comme
que
vous,
tous
moi,
les,
je...
oui. Oui. Par contre, c'est vrai qu'on voit que dans toutes les villes, les élus sont très à l'écoute et les pistes cyclables existent un peu partout. tout, et tant mieux. Voilà. Mmh. Moi, je suis opposée aux pistes cyclables, vous savez, avec les contresens routiers, je trouve ça extrêmement dangereux. Bon, voilà, parce que c'est très très dangereux. On a beau dire c'est bien parce qu'on a tracé par terre. Enfin, moi, je le vois à Paris parce que c'est, enfin, pour moi, selon les endroits, c'est extrêmement dangereux. Par contre, des vraies pistes cyclables avec des endroits dédiés, c'est ce qu'il faut faire. Alors après, les élus font comme ils peuvent entre nous.
Oui,
parce que vous, quand vous avez une ville très dense avec des rues qui sont faites depuis 40 ans, c'est quand même avec,
c'est pas évident,
avec beaucoup de population, les gens veulent garer leur voiture et je les comprends. Donc, mais on arrive à ne, moi je ne veux pas qu'on oppose le vélo, le piéton, la voiture. Tout le monde doit trouver sa place. Et voilà. Donc je devrais faire du vélo, mais je n'en fais pas assez. J'ai un mari qui fait du vélo.
On va bientôt vous accueillir à l'atelier Saint-Anne-au-Monde pour vous faire essayer un vélo électrique hyper léger. Et ça sera avec un grand plaisir.
Avec grand plaisir. En tout cas, bravo pour ce que vous faites, madame. Vraiment, vraiment.
Je n'ai autant à votre service, chère sénatrice.
C'est gentil, merci.
Alors donc, Carla, vous, aujourd'hui, vous passez dans la phase commerciale, hein, si j'ai bien compris. Et professionnellement, quels sont vos besoins ?
Alors, on passe dans la phase commerciale. On a une certaine visibilité puisqu'on a quand même été assez publicité par pas mal de radios, dont BFM, et on a eu beaucoup d'articles sur pas mal de supports, magazines professionnels, et puis comme Le Figaro aussi également. Je dois remercier aussi, j'en profite, l'ADEME qui m'a vraiment soutenue dans ce projet-là, et la BPI puisque ils ont été deux acteurs et Initiative France d'ailleurs également parce qu'ils ont été des acteurs assez déterminants dans mes décisions et dans mon cheminement par rapport à tout ce qui a été développement sur ce vélo, parce qu'il faut savoir que ce vélo il a quand même beaucoup de qualités. Déjà il a une empreinte carbone beaucoup moins importante que tous les vélos que l'on trouve et qui arrivent généralement d'Asie, et j'ai rien contre l'Asie, j'y ai vécu. Ensuite, ils sont hyper légers parce que ce sont des vélos qui font moins de 15 kilos avec une assistance électrique, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas de la majeure partie des vélos qui pèsent minimum 10 kilos de plus. Et on sait que les accidents à vélo viennent souvent du fait que les vélos sont trop lourds.
Ah oui, donc, on perd son équilibre.
Donc voilà. Et on donne aussi, alors moi je suis une femme assez libérale et je donne, pas pour tout mais pour ça en tous les cas, la possibilité à nos utilisateurs de choisir s'ils souhaitent avoir un vélo avec ou sans assistance électrique.
D'accord.
Et même quand ils ont l'assistance électrique, ils peuvent débrayer l'assistance électrique qui fait qu'ils peuvent rouler avec ou sans assistance électrique.
D'accord. Oui, c'est ingénieux.
Donc, on donne beaucoup de choix. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse continuer à prospérer et à recruter du personnel un petit peu en réinsertion et à former du personnel comme je l'ai fait jusqu'à présent? Effectivement, c'est des moyens. Je pense qu'on va faire en sorte d'obtenir des certifications pour être société de formation.
Ah oui.
Pour pouvoir réintégrer, et ça c'est mes projets futurs, pour pouvoir réintégrer du personnel qui est un petit peu marginalisé, parce qu'aujourd'hui travailler c'est une chose, les valeurs de travail sont des choses que moi je préconise et qu'on a eu dans ma génération dès l'enfance. Aujourd'hui, les valeurs se sont quand même légèrement modifiées, et je pense que la génération qui est actuellement aux manettes a besoin de valeurs pour travailler et se retrouver dans quelque chose. Et au travers de ces produits de mobilité, je pense qu'on peut faire des grandes choses. Et j'ai quelques idées là-dessus. Donc voilà, je vais pas les développer aujourd'hui. Je vais pas les développer aujourd'hui parce que ça serait trop long. Mais je pense à nos gens qui sont au RSA. Je pense à pas mal de choses et je vais également me rapprocher d'ailleurs de France Travail pour leur soumettre quelques idées parce que je pense qu'il y a vraiment énormément à faire dans ce domaine-là. Et on va avoir besoin de moyens, effectivement, pour pouvoir promouvoir le vélo au sein des entreprises. Donc, on va essayer de faire des petites campagnes là-dessus. Et puis, de faire connaître la marque. Parce que, non seulement j'ai développé un vélo, mais j'ai également développé un casque en bambou qui est complètement recyclable et qui est le seul casque au monde à être recyclable. Aujourd'hui, quand on fait un casque, ça a un certain prix, mais quand il est cassé et qu'on doit le recycler, ça coûte plus cher. Donc aujourd'hui, on ne recycle pas les casques qui sont cassés pour des raisons X ou Y. Et moi, j'ai inventé un produit qui nécessite maintenant d'être industrialisé, mais qui en termes de TRL, alors ça, c'est des termes de l'ADEME, et au niveau 9, c'est-à-dire au niveau maximum, sauf que maintenant, il nous faut des fonds pour pouvoir industrialiser ce casque. Voilà, donc on a besoin, comme tout le monde, c'est le nerf de la guerre, d'argent, mais c'est pas d'argent pour faire des choses rien
oui,
avec,
c'est
d'argent
c'est
pour réutiliser
pas,
et pour en même temps
pas
insérer.
Pas pour que faire des profits.
Voilà, et en même temps insérer hommes et femmes dans la fabrication, l'assemblage des vélos, et également dans l'assemblage de casques, puisqu'on a fait des casques qui sont modulables et multisports, multi-usages.
Vous étiez vraiment faite pour vous rencontrer, hein, je suis ravie de ça. C'est vrai. Alors, Carla, donc vous avez quand même donc toujours dans cette veine hein, que vous avez d'aller vers l'autre. Vous avez identifié que certains freins se faisaient jour pour les femmes entrepreneurs. Et donc vous avez une action dans ce sens.
Alors déjà, c'est drôle que vous me posiez la question. Alors j'ai postulé là il y a peu de temps. Orange a créé un concours pour les femmes chefs d'entreprise et j'ai été présélectionnée pour participer à la finale qui aura lieu le 16 février à Paris dans leurs locaux, dans leur siège. Mais je l'ai pas faite de façon féministe parce que pour moi le féminisme, c'est une revendication qui n'a pas lieu d'être, parce que en fait, oui. Moi, je me sens pas inégale par rapport à l'homme, ni moins, ni au-dessus, ni enfin voilà.
Se servir de modèle, hein, d'exemple,
voilà,
à d'autres femmes.
Voilà, exactement. Ouais. Je me pose même pas la question. J'ai plusieurs casquettes. Hein. J'ai également une casquette de conseillère de commerce extérieur français. Je suis spécialisée à l'international. J'ai beaucoup de compétences en termes de logistique. Si vous voulez. Quand on arrive à mon âge, on a plusieurs vies et on a pas mal d'expériences professionnelles, comme Madame la sénatrice l'a dit tout à l'heure, hein, qui a été dans l'enseignement et tout. Et moi, je suis aussi pour le partage et la transmission de mes connaissances.
Très important. Ouais.
Donc voilà,
c'est dans cette optique.
Je pense que hommes, femmes, moi je coach des gens qui sont dans des grosses entreprises et je le fais bénévolement parce que ça m'amuse et que ça me fait marcher. Mes petites neurones en même temps et ça m'ouvre les chakras, on va dire ça comme ça, et je pense que c'est très important de pouvoir fréquenter des hommes, être dans un milieu masculin comme je le fais aujourd'hui par rapport à la mobilité, mais c'est vrai que ça n'a pas été simple parce que on est sur l'industrie et dans le milieu industriel parfois effectivement une femme peut rencontrer des freins. Elle peut également rencontrer des freins en ce qui concerne la levée des fonds. Moi ça a été mon cas. J'ai deux inconvénients.
Alors qu'on sait que les femmes sont
beaucoup
sont
plus tenaces,
complètement, et puis très sérieuses hein,
et meilleures gestionnaires en tous les cas,
complètement,
et qui se sentent plus responsables des fonds qu'on leur confie, parce que on a tendance à gérer des fonds qu'on nous confie en bonne mère de famille.
Oui, c'est ça. On part pas.
Alors, je suis désolée de le dire, mais et c'est pas du tout sectaire ce que je vais dire ou réducteur. Mais par exemple, je vois aujourd'hui beaucoup, on lève des fonds dans le software. Ok, les logiciels, les applications, ça. Et puis on s'aperçoit que sur 10 sociétés qui ont levé des fonds, le profil c'est des jeunes qui ont 30 ans. J'ai rien contre les jeunes qui ont 30 ans, j'ai des enfants qui ont 30 ans et que j'adore, donc et qui sont merveilleux et que je pousse à faire plein de choses. Donc c'est pas le sujet, mais on leur donne des fonds, on leur donne des moyens et tout ça. Et puis ces fonds-là s'évaporent aussi vite qu'ils sont arrivés et puis au final il se passe rien. Moi, ça fait 10 ans que je mène ce combat, mais je mène pas un combat contre, je mène un combat pour.
Et ça, c'est
très important. Et ça fait donc 10 années que je mène ce combat. Ça fait 10 ans que des investisseurs. Alors j'ai fait une levée de fonds où j'ai eu du family office qui m'a fait confiance et je les remercie. Ils me font encore confiance avec lesquels j'ai levé 400 000 euros de fonds. Mais avec 400 000 euros de fonds, j'ai développé un casque. J'ai développé quatre vélos.
Oui, oui.
Je fais travailler des personnes. Je réinsère, etc. Là où des gens vont développer qu'un seul vélo, il va leur falloir le double de ce que j'ai eu moi comme fond pour pouvoir développer ça. Et je dis, et si, à ceux qui l'entendent, que je suis quelqu'un d'engagé, cet argent, c'est pas pour moi, c'est pour pouvoir faire encore plus, encore mieux, et réinsérer et créer de l'emploi. Donc voilà, ceux qui m'écoutent, s'ils ont envie de me rencontrer par rapport à ça, ça sera avec grand plaisir.
Eh bien écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite dans cette émission. J'espère qu'il y aura beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui auront entendu votre message. Une dernière question, Carla, si vous deviez résumer votre vision en une phrase, quel serait votre message justement aux jeunes générations?
Alors moi j'ai un message, mais je le fais passer parce que je suis souvent conférencière dans les universités et les écoles de commerce par rapport à l'innovation, l'écologie et aux valeurs humaines et à la création d'entreprises. Et je dis, écoutez, je comprends que la génération actuelle ait des valeurs et se sente bien dans ses valeurs par rapport à tout ce qui est écologie et tout. Mais la valeur du travail et de l'engagement, c'est aussi quelque chose de très important. Et j'espère que ceux qui m'écoutent vont prendre acte de ça, parce que il faut pas attendre que ça arrive à soi, mais il faut aller au devant des choses pour pouvoir justement mieux les maîtriser et maîtriser sa vie.
Merci infiniment, Carla Santelis, donc fondatrice de Aibo. Merci pour votre expertise, vos défis, puis vos perspectives, qui n'oublient pas de valoriser le rôle de femme leader dans un secteur encore majoritairement masculin. Et donc, vous êtes avec Madame la Sénatrice de parfait modèle, un exemple à suivre, je trouve. Merci. Alors voilà, on arrive à la fin de l'émission, pardon, je bafouille. On a une petite tradition, c'est que je redonne la parole pour un mot de conclusion. Donc Carla, je vous un petit mot de conclusion.
Alors je vais faire un peu d'humour, mais j'étais ravie d'être encadrée par deux Jacqueline, parce que je sais que ce sont des femmes de tempérament pour avoir une belle-mère qui s'appelait Jacqueline. Et finalement, vous avez vraiment des personnalités très intéressantes. Et j'ai passé un bon moment avec vous et je voulais vous remercier, et merci aussi de nous avoir donné la parole faire connaître Aibo, qui est maintenant installé dans le Val d'Oise et qui a son site internet aibo.bike, et on sera ravis en tous les cas de pouvoir raconter cette histoire et puis et faire comprendre le produit que nous promouvons ici dans le Val d'Oise.
Mais on va vous suivre et puis on va continuer de relayer la vie de
Merci
vous.
Beaucoup.
Madame la sénatrice, chère Jacqueline, le mot de la fin, c'est
d'abord, merci
vous.
De m'avoir accueillie. J'ai été ravie d'être là à vos côtés aussi, vous madame, parce que j'ai appris d'abord plein de choses. Et puis, comme moi, vous êtes une femme d'engagement. Et je pense que c'est important qu'on les mette en valeur, ces femmes d'engagement, que ce soit en politique ou que ce soit dans le monde d'entreprise, dans le monde associatif.
Absolument.
Je pense que c'est extrêmement important. Et vraiment, j'ai un grand plaisir de vous découvrir, de découvrir ce que vous faites, de vous rencontrer. Et puis, tout comme vous, je pense que les combats, ils sont pas contre, mais ils sont pour. On se bat pour, et moi je me bats pour la France, hein, voilà, vous le savez, je me bats pour cette République, et je me bats pas pour la jeunesse, comme vous le faites aussi, vous madame, probablement, parce que j'ai juste envie de dire aux jeunes qui nous écoutent que le matin on se lève, on se bat, et on se dit j'ai des rêves, j'ai des envies, j'ai des ambitions, et j'ai envie de me donner surtout les moyens d'y arriver. Dans ce pays, on peut arriver à beaucoup de choses, il faut pas tout attendre des autres, il faut pas tout attendre du ciel, il faut pas tout attendre en permanence.
Il faut se prendre en main.
Moi j'ai parti d'une génération, il fallait qu'on se lève le matin pour y arriver, et je pense que les jeunes aujourd'hui, il faut aussi qu'on passe ce message. Tout est possible. Alors c'est plus ou moins facile.
Oui.
On n'a pas tous les mêmes chances. On vient pas tous du même milieu, mais c'est pas grave. Il faut jamais remettre en cause ce qu'on a envie de faire. Faut croire à son étoile. Et puis se dire, je vais me donner les moyens d'y arriver, parce que parfois il y a des écueils, parfois c'est compliqué, mais on peut quand même y arriver. Vraiment, j'y crois. Il faut toujours essayer de trouver le petit chemin, les petits cailloux qui vont nous y conduire. Et vous, madame, vous en êtes l'exemple frappant. Merci.
Merci beaucoup.
Rien ne me fait plus plaisir de quand ça se passe. Je dois dire que j'ai de la chance. Ça se passe souvent, mais il y a une symbiose qui se crée entre mes invités. J'adore.
Merci.
Et merci à vous, merci à toutes vous, les deux, d'avoir été invitées.
Merci, chère Jacqueline.
Merci. Merci infiniment. Voilà, l'économie en direct est terminée sur IDFM Radio. Merci Francky pour la technique. Merci à vous, auditrices, auditeurs, de nous être fidèles comme à chaque émission. Cette émission vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez son podcast sur le portail de la radio. Et vendredi à 9h30, je vous retrouve pour une nouvelle émission. D'ici là, belle journée et à vendredi.
IDFM Radio, 98 FM.
Don't you worry.
IDFM Radio 98 FM.